franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, des preuves génétiques sur la première population des Amériques qu'on appelle les anciens Béringiens.
La découverte d'un passage a marqué le début du peuplement de l'Amérique. Mais qui étaient les tout premiers hommes à fouler ce continent? Quand et comment sont-ils arrivés?
Elle s'appelle la petite fille du lever de soleil. Elle a 11 500 ans. Ce nouveau-né de 6 semaines était le chaînon manquant pour expliquer l'arrivée et le rayonnement des premiers Amérindiens. Et grâce à l'étude de son génome, à partir de ses restes fossilisés retrouvés en Alaska en 2013, une équipe de chercheurs des universités de Copenhague, de Cambridge et d'Alaska lève le voile sur les premiers peuples d'Amérique. On en parle, Agnès, avec notre invité qui est en direct du bureau de Radio France à Marseille.
Stéphane Mazière, vous êtes anthropologue, spécialiste en génétique des populations et vous travaillez au laboratoire d'anthropologie biologique de Marseille. Bonjour.
Bonjour.
Alors, grâce à l'étude du génome de ce nourrisson de 6 semaines, on peut mieux retracer...
6 mois.
De 6 mois.
Il avait 6 mois ou 6 semaines ce...
6 semaines. De 6 semaines.
6 semaines, il me semble.
Oui. Voilà, oui. On peut mieux retracer donc l'histoire et notamment dater l'arrivée des premiers Amérindiens en Amérique.
Ben oui, en fait, cet échantillon, on va dire, tombe à point nommé. C'est un échantillon qui est intermédiaire, je veux dire géographiquement intermédiaire, entre l'Asie et l'Amérique. C'est vraiment la pièce du puzzle qui manquait jusqu'à présent.
Ouais, Stéphane Mazière, je crois que vous avez un écho dans les oreilles, ce qui provoque une gêne, oui. Hein, pour discuter ensemble. Et on a le même problème, on va essayer de le régler ensemble, parce qu'effectivement, ça nous trouble beaucoup dans cette discussion en direct. Donc on va essayer de poursuivre confortablement pour discuter ensemble de ces travaux qui sont extrêmement importants, Agnès, hein, justement, pour retracer l'histoire de ces premiers habitants de l'Amérique.
Hein. Oui, il le disait à l'instant, Stéphane Mazière, c'était la pièce manquante qu'attendaient les chercheurs pour essayer d'expliquer donc, le peuplement de l'Amérique à partir de l'actuelle Sibérie. Jusqu'à l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, etc. Et cette dispersion à travers le grand continent américain. Et là, Stéphane Mazière, je ne sais pas si vous nous entendez, donc ils ont pu établir que ces premiers peuples seraient arrivés déjà en Béringie, donc la terre qui se situe sur l'actuel détroit de Bering, vers 36 000 ans, c'est ça ? Moins 36 000 ans ?
Oui, c'est ça. Ils seraient arrivés alors bien avant qu'ils se déversent en Amérique, dans ce continent qui était inoccupé. Et donc, ils occupaient cette place qui était à l'époque immergée et aujourd'hui qui est sous l'eau du fait de la montée du niveau de la mer. Et avant que les glaciers ne fondent en Amérique du Nord, ils étaient donc coincés en Béringie. Ils sont restés là pendant plusieurs milliers d'années. Et c'est un modèle qu'on appelle modèle d'incubation, pendant lequel ces populations ont acquis des mutations dans leur ADN qui n'existaient pas en Asie et qui vont se déverser ensuite en Amérique.
Donc c'était des Sibériens qui sont arrivés, qui ont franchi l'actuel détroit de Bering.
C'était effectivement des Sibériens, oui.
Et donc, quelle a été la suite de leur parcours? Ils sont arrivés à quel moment? Ils ont commencé à se disperser à quel moment, alors, en Amérique?
Alors, la dispersion serait concomitante avec la fonte des glaces. On imagine un peuplement à partir de 15 000 ans. À partir de 15 000 ans, ils commencent à migrer vers l'est et vers le sud, très probablement le long de la côte, le long du littoral.
Oui.
Voilà.
Et les auteurs les appellent les anciens Béringiens. C'était une population qui était inconnue jusque-là.
Oui, qui était inconnue parce qu'en fait, on a pas de traces. On a quelques traces archéologiques juste avant en Sibérie, juste après en Amérique. Donc, on a des Sibériens, on a des Amérindiens, ou ce qu'ils appelaient des fois des paléo-amérindiens. Mais ces Béringiens ont disparu parce que déjà leur terre a disparu et que se sont totalement déversés en Amérique. On n'a aucune trace. Et cet individu devient extrêmement intéressant puisqu'il est archéologiquement le plus représentatif de ce qui devait être cette population béringienne, proto-amérindienne ou ancestrale aux Amérindiens. Et en plus, ils ont réussi à récupérer son ADN. Et donc, on a quelque part une idée d'un échantillon biologique de ce que devait être le patrimoine génétique de cette première population ancestrale aux Amérindiens.
Alors Stéphane Mazière, comment on date exactement cette arrivée de ces premiers peuples? Parce qu'on a justement ce nourrisson qui a donc cette datation hein, de 11 500 ans, et pourtant on estime que les premiers seraient arrivés il y a 35 000 ans. Alors comment on fait ce calcul exactement?
Alors ça c'est un calcul, ce sont plutôt des estimations par modélisation ou simulation informatique de ce que devait être la démographie pour obtenir le patrimoine génétique actuel. Mmh. Voilà, à partir des données génétiques en fait.
D'accord, et c'est ainsi qu'on arrive à... Parce que donc elle a 11 500 ans, mais on dit qu'elle est issue d'un groupe, ces fameux anciens Béringiens, qui remonte à plus de 20 000 ans. Donc on peut remonter
oui,
comme
c'est ça
aussi.
En fait, c'est un principe qui... C'est ça. C'est un principe qui... Voilà, on prend plusieurs patrimoines génétiques et on essaie de voir à partir de quand ils devaient converger. C'est un modèle de convergence, de coalescence, à partir duquel quel devait être le nœud initial, à partir duquel ils se sont dispersés.
Est-ce qu'on a d'autres preuves justement de l'arrivée de ces peuples, où ils sont justement les pièces à conviction sont extrêmement rares sur ces époques?
On a quelques individus anciens qui ont été publiés depuis 5 ans. Alors quelques-uns en Sibérie, il y en a un qui a 24 000 ans et dont le patrimoine génétique serait probablement très proche de la première population qui serait partie vers la Béringie. Il y a des individus également dans l'actuel état de l'Oregon, datés environ à 12 000 ans, pour lesquels on a un contexte archéologique bien décrit et de l'ADN. On a un individu également dans le Montana, et puis un peu plus au sud, en Amérique du Sud également, il y a un petit peu d'ADN ancien. Donc voilà, et puis surtout maintenant, il y a eu quelques papiers également pour la frange arctique. Pas mal d'individus, un peu plus récents par contre, hein, qui n'ont pas 12 000 ans, qui ont par contre certains 4 000 ans, 2 000 ans, 1 000 ans. Mais on commence à voir, pour le nord de l'Amérique du Nord et sa frange arctique, un tir nourri, groupé d'individus anciens pour lesquels on a des données et archéologiques et génétiques.
En tout cas, ce groupe, ces anciens Béringiens, seraient à l'origine d'une vague de migration majeure et primordiale en fait. Alors qu'à un moment donné, on pensait qu'il y avait eu plusieurs vagues de migration, mais c'est eux qui seraient l'ancêtre de toutes les populations qu'on rencontre en Amérique aujourd'hui, y compris, vous venez de le dire, dans les régions arctiques.
Stéphane Mazière.
C'est ça, ce sont eux qui vont initier, qui vont amorcer ce premier peuplement d'une vague qui va couvrir toute l'Amérique, donc à peu près la cale à 20 000 ans. Le patrimoine génétique de cet individu serait ancestral à l'ensemble des populations amérindiennes. Et donc plus tardivement, dans des périodes qui, on va dire, il y a 2000 ans, 3000 ans, il y a peut-être eu d'autres vagues, mais qui ne vont concerner que la casquette arctique de la Sibérie et de l'Amérique, et donc de ces populations.
Carole Fritz, alors puisque vous êtes là, on en profite parce que c'est exactement notre sujet. Hein.
Oui.
L'art rupestre amérindien, alors on le voit émerger à quel moment? On a des traces aujourd'hui qui datent de quand?
Oui, il y a des traces de deux mammouths qui semblent anciens dans le centre des États-Unis. Le problème, c'est qu'on n'a pas de datation.
Ouais.
Les recherches qui sont actuellement menées, qui ont été menées là, en génétique, sont très importantes, puisqu'on se doute bien que le continent américain a été peuplé anciennement.
Ouais.
On a toutes les données sur les populations, on va dire, plus récentes.
Mm-hmm.
Mais forcément, elles sont arrivées, et on pense au paléolithique.
Ouais. Mais on n'a que ces deux mammouths-là?
On a des choses.
Gilles Tozello.
On a des choses, d'autres choses, mais qui sont très éparses. Essentiellement aussi à cause de ce qui s'est passé au point de vue climatique. Mm-hmm. Le nord de l'Amérique a été fortement touché par la glaciation. Et donc, on pense qu'il y a une bonne partie de façon du continent qui était à peu près inhabitable. Mais donc, ce sont plutôt les régions situées à l'ouest et au sud des États-Unis qui ont des traces. Par exemple, pour vous donner une idée, la seule peinture datée avec certitude, elle n'a que 4000 ans.
Ouais.
Elle est au Texas, hein, dans la rivière Pecos, donc à la frontière avec le Mexique, et c'est certainement pas la plus ancienne. Hein. Après, on a des gravures dites d'art mobilier, c'est-à-dire des incisions sur des pierres qui, elles, ont plus environ 12 000 ans.
Et donc la difficulté aussi de dater, hein, c'est ce que vous nous dites.
Tout le problème est là.
Merci beaucoup en tout cas Stéphane Mazière pour ces explications donc autour de l'étude de ce génome, de ce nourrisson qui donne des informations donc sur l'arrivée des premiers peuples amérindiens. Merci à vous, merci aux équipes de Marseille et Agnès, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, passer sur le billard est plus risqué. En Afrique, le taux de mortalité lors des opérations chirurgicales y est deux fois plus élevé qu'en moyenne dans le monde. C'est le résultat d'une étude parue dans la revue médicale The Lancet. Elle combine les données de 247 hôpitaux dans 25 pays du continent, ce qui représente près de 11 000 patients. Il en ressort que près justement d'un patient sur cinq a des complications après une opération. Les chercheurs pointent aussi une pénurie de main-d'œuvre, de ressources et un manque de surveillance des patients pendant et après leur opération. Le calcium serait-il le sixième goût? Pour le savoir, des chercheurs de l'Université de Californie ont mené une expérience avec des Drosophila melanogaster, qu'on appelle aussi mouches du vinaigre. Ils leur ont proposé deux mets, l'un composé de sucre, l'autre de sucre et de calcium. Les mouches ont délaissé le mélange contenant du calcium dont la consommation à forte dose peut s'avérer fatale. Mais comment ces mouches ont pu identifier le goût du calcium? Eh bien, grâce à trois neurones gustatifs spécifiques que les scientifiques ont pu identifier. Et selon cette étude parue dans la revue Neurone, d'autres espèces, y compris les humains, pourraient détecter le goût du calcium en plus du sucré, du salé, de la mer, de l'acide et de l'umami. Et puis après la super lune du 1er janvier, notre satellite va offrir un nouveau spectacle avec la lune pourpre ou lune de sang. Un phénomène très spécial qui résulte de trois événements célestes simultanés. Une super lune due à la proximité de notre satellite avec la Terre. Une pleine lune pour la deuxième fois en un mois. Une éclipse lunaire totale qui la teintera de rouge et de bleu. Ce genre de phénomène ne s'est pas produit depuis 150 ans. À vos agendas donc, c'est prévu pour le 31 janvier.